ce mardi 8h30 et ce jeudi 13h.
Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce 29 avril 2026, déjà avril qui tire à sa fin. Il n'y a pas de 31 avril, non, 1er mai c'est bientôt. Et qui dit 1er mai dit que les impôts doivent être réglés.
Ces chers impôts.
Oui, ces chers impôts, ça revient à chaque année.
Oui.
Les impôts sont fidèles. Ça va Mathieu?
Oui.
Oui. Aujourd'hui, à l'émission, nous aurons la chronique cinéma avec Louise-Véronique Sicotte, le défi sportif Altergo. On continue et ça se poursuit en compagnie de notre reporter officiel Dominique Tremblay qui sera là pour nous livrer les plus récentes informations. Serge Bradet, ben, vous êtes en face de moi. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous allez parler de quoi aujourd'hui?
Je vous parle d'Edmond Archambault. L'homme au diapason des goûts musicaux des francophones, c'est le fondateur du mythique magasin Archambault,
oui.
Qui avait pignon sur rue, Sainte-Catherine et Berry, et malheureusement qui a fermé ses portes en 2023.
Le show Mal amoché présenté au Jésus, ça va se faire très, très bientôt, c'est demain, et j'aurai le plaisir d'en parler avec l'humoriste William Bernacchese, qui a déjà chroniqué sur nos ondes. Il sera de retour à cette émission aujourd'hui. Et puis les unes, bon, c'est moi. Il y a des nouvelles du Canada francophone en compagnie de Julien Caillouette et la chronique d'Isabelle Falardeau. Bonjour.
Bonjour.
Votre menu du jour.
Ben oui, moi, menu, merci beaucoup. Donc, vous avez peut-être passé, ça fait un petit bout de temps qu'on en parle, les épiceries publiques, donc un réseau d'épiceries qui serait géré par le gouvernement ou différents niveaux de gouvernement. Donc, on va faire le point là-dessus. C'est Philippe de Montigny sur le site de Radio-Canada Info qui a vraiment fait le tour de la question.
On y va avec les unes, à la une de la presse plus, travailleurs de la santé, l'IA vous rappelle de laver vos mains. Dans notre temps, c'était nos mères, nos pères, mais surtout nos mères. Bon, alors, dans le feu de l'action, bien des soignants n'y pensent pas. L'Hôpital général de Montréal s'est doté d'un système d'intelligence artificielle qui enverra bientôt une alerte à ceux qui négligent l'hygiène des mains avant de voir un patient. C'est Marie-Ève Cousineau qui signe le texte. L'intelligence artificielle est capable de détecter des types de mouvements spécifiques comme quand les mains ont été lavées versus quand elles ne l'ont pas été. C'est le docteur Alan Forster, directeur de l'innovation, de la performance et de la qualité au CUSUM, qui l'affirme. Au Québec, beaucoup de soignants omettent de se laver les mains lorsqu'ils interviennent auprès de patients. La presse a fait une demande d'accès à l'information à une trentaine d'établissements de santé québécois afin d'obtenir le taux de conformité à l'hygiène des mains de leurs hôpitaux. Deux n'ont pas répondu. Certains ont fourni des chiffres globaux, incluant les CHSLD. Ils ont été exclus de notre calcul. Selon les données obtenues, 15 hôpitaux sur 83 atteignent ou dépassent la barre des 80 % en 2024-2025. Près de 15 autres s'en approchent avec un taux de plus de 75 %. On a fait le test à l'hôpital d'Ottawa de cet outil intelligent. Et puis, ça fonctionne bien. Alors, tant mieux. Et puis, à la une du Devoir, nous avons M. Carney. Ottawa livre un énoncé économique prudent face à la tempête pétrolière. C'est Boris Proulx qui signe le texte. Ne cherchez pas de grandes mesures tape à l'œil dans l'énoncé économique printanier du fédéral, dévoilé mardi par un gouvernement Carney qui opte pour la prudence dans une économie qui pourrait subir les effets d'un choc pétrolier persistant. 66,9 milliards, Ottawa annonce un déficit de 66,9 milliards de dollars, soit 11,4 milliards de moins que ce qu'il avait initialement prévu, une donnée sur laquelle a lourdement insisté le ministre des Finances, François-Philippe Champagne. Et puis, réexamen de l'ACEUM, l'ACEUM qui est l'accord Canada-États-Unis-Mexique, le Québec doit faire entendre sa voix. Il faut consolider les chaînes d'approvisionnement nord-américaines. américaine, dit Louise Blais, la nouvelle émissaire du Québec. Et puis, à la une du Journal de Montréal, le cancer devra attendre. C'est assez terrorisant comme titre. Ils veulent rassurer le monde, mais ils ne savent pas nécessairement ce qui se passe sur le terrain, dit le docteur Daniel Vien. L'informatisation des dossiers de santé occasionnera des retards. C'est à lire dans le Journal de Montréal. Et là-dessus... Un petit coup de meringue glacée par François Dompierre pour aller joindre Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour, Julien.
Bonjour, Hélène.
En direct ce matin à cette heure-ci pour nous parler d'abord et avant tout du CRTC qui approuve la demande de hausse tarifaire de TV5 Québec-Canada.
Oui, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a approuvé cette demande d'augmentation tarifaire-là. Ça va être de 2 cents par abonné au câble qui vont aller à TV5 et TV5 Uni. Le groupe médiatique avait demandé cette hausse-là l'automne dernier. Le CRTC avait initialement reporté l'étude, ce qui avait inquiété TV5. On savait que ça pressait puis on avait peur que ce soit refusé. Finalement, ça vient d'être approuvé. La semaine dernière. Je vous rappelle que TV5 Québec-Canada, ils ont le mandat de produire du contenu francophone provenant de la francophonie canadienne, surtout sur la chaîne Uni. Puis la hausse est effective maintenant. TV5 s'attend à avoir environ 2 millions de dollars de plus par année. C'est pas énorme, mais c'est suffisant pour les besoins immédiats. TV5 Québec-Canada avait dû éliminer une quinzaine de postes l'année dernière à cause de la baisse des revenus et de la hausse du coût de production. C'est plus un répit qu'une solution à long terme parce qu'on le sait, le nombre d'abonnés au câble diminue. Donc, TV5 dit qu'ils vont devoir quand même trouver d'autres façons de se financer.
Création d'un groupe de réflexion sur l'Acadie. On en parle dans l'Acadie Nouvelle.
C'est un groupe de 5 citoyens acadiens, dont le sociologue bien connu Joseph-Yvon Thériault, qui invite la population francophone à trouver des pistes de solutions pour revivifier l'Acadie. De leur point de vue, l'heure est grave pour l'Acadie. Ils croient qu'elle s'efface face à l'anglais et qu'il n'y a plus autant les moyens qu'avant pour lutter contre ce phénomène-là. Donc, le groupe a produit un document de réflexion intitulé « Construire la nouvelle Acadie ». La grande question, c'est est-ce que l'Acadie est... Mais qu'est-ce que c'est l'Acadie et comment on peut la sauver? Le groupe propose une définition très inclusive de ce qu'est l'Acadie. Pour eux, c'est un fait, c'est-à-dire c'est une communauté francophone qui vit au Nouveau-Brunswick, qui existe, puis qui a des institutions et une histoire. D'autre part, c'est aussi une lutte pour l'autonomie et l'épanouissement du français dans cette région-là. Et pour sauver l'Acadie, ce qu'eux mettent de l'avant, et que les enfants francophones puissent parler en français à la garderie, donc avoir assez de place pour tout le monde, enseigner plus d'Acadie, surtout l'histoire dans les salles de classe, encourager les municipalités francophones et le gouvernement à renforcer la fierté acadienne et obtenir plus de financement pour les artistes, puis demander aux députés d'utiliser plus le français. Les Acadiens peuvent consulter le document sur le site nouvelleacadie.net, répondre à un sondage aussi. On espère utiliser toutes ces réponses-là pour des états généraux de l'Acadie qui vont avoir lieu en juin à Edmonton.
Par ailleurs, Julien, la réforme du programme ontarien des services en autisme montre ses limites.
L'Express qui nous en parle longuement. Il y a 8 ans, le gouvernement Ford, nouvellement arrivé au pouvoir, annonçait réviser le programme de financement pour les services aux personnes autistes. Finalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé toute gestion par le gouvernement. Ils ont simplement donné l'argent directement aux parents. Donc, ça revient à eux de trouver les services et de dépenser l'argent qu'ils ont pour leurs enfants. En théorie, donc, les parents peuvent payer pour ces services-là. Et ça a été déjà un peu difficile, cette transition-là, pour les anglophones, mais pour les familles francophones, pour certaines familles francophones, ça a carrément été catastrophique, nous dit le président de la Société ontarienne, franco-ontarienne de l'autisme, Carole Jolin. Il y avait déjà des déficits de services en français partout en province, surtout dans les régions rurales. Par exemple, M. Jolin parle d'une mère qui lui a dit qu'elle avait droit à 65 000 $ par année à dépenser pour son fils autiste, mais qu'elle arrive à peine à dépenser 25 000 $ tellement elle a de la difficulté à trouver des services adaptés. Ce n'est pas le cas de toutes les familles, on précise. Là, il y en a qui arrivent, qui trouvent des services puis qui peuvent dépenser le montant auxquels ils ont droit, mais pour d'autres, ça a un peu empiré la situation parce que ça a créé aussi du déplacement de services. Les conseils scolaires, de leur côté, ont fait des progrès aussi, mais on le sait, dès que les enfants autistes sortent de l'école, ben, tout service tombe presque à zéro. Puis depuis, on ne sait pas exactement combien de familles ont des difficultés à trouver des services. Il n'y a pas d'études ou de suivi sur cet enjeu-là.
Bon, service, argent, on tourne en rond un peu. Mais il y a quand même des progrès qui se font. L'idée d'une société immobilière pour gérer les infrastructures, Françoise fait son chemin.
Gérer un édifice, ça peut être un fardeau pour les finances puis les ressources humaines d'un organisme. Il n'est pas nécessairement voué à cette tâche-là. C'est pour ça que l'association communautaire Françoise avance cette idée-là de créer une société immobilière pour gérer les infrastructures des organismes francophones. Donc, une sorte de bureau central qui appuie les organismes, qui gère soit leur édifice ou leur espace pour plusieurs en même temps. Selon l'association, il y a plusieurs espaces francophones qui ont été perdus au fil des années à cause de ce déficit de gestion-là, parfois. Avec le projet de maison de la francophonie qui approche, là, un centre qu'on veut créer pour rassembler plusieurs organismes, ça pourrait bien s'intégrer à ce projet-là. Il y a quand même des petits bémols dans tout ça. Ça prend de l'argent, évidemment, pour financer une structure de ce genre-là. Donc, on se demande d'où ça va venir. Est-ce que ça va être assez abordable aussi pour les organismes? Est-ce que ça va vraiment leur sauver de l'argent plutôt que d'avoir quelqu'un à leur emploi qui fait ça? Ils peuvent quand même s'inspirer de certains exemples. En Alberta, il y a la cité francophone d'Edmonton qui fonctionne. Il y a aussi la cité des Rocheuses à Calgary qui fonctionne et qui réussit à dégager assez de revenus pour à travers des subventions et leur clientèle. Mais donc, pour la Saskatchewan, ça reste à définir.
Dans le Nunavoie, le coût de l'alimentation pèse lourd sur les ménages du Nunavut.
Pour la première fois depuis 2019, le Bureau de la statistique du Nunavut a évalué le coût moyen d'un panier d'épicerie. On a ciblé un groupe de produits spécifiques, là, on a évalué combien ça coûte. Donc, au Nunavut, en moyenne, c'est environ 200 $, ce qui est 66 $ de plus pour les mêmes produits à Ottawa. On donne des exemples qui peuvent frapper un peu les esprits. Là. Par exemple, un litre de lait au Nunavut peut coûter 8 $. Les barres de chocolat, hein? Les barres de chocolat, c'est 88 $ le kilo et les tomates, près de 20 $ le kilo. Il y a aussi des grandes variations entre les localités du territoire. Là, 200 $, c'est le prix du panier à Iqaluit. Mais à Resolute Bay, ça peut être 165 $. Et à Toloyuak, ça serait plus autour de 237 $. Donc, 200 $, c'est vraiment une moyenne. Évidemment, le transport affecte beaucoup les prix des denrées au Nunavut. Hein? C'est beaucoup par avion, ce qui est un moyen de transport qui est plus affecté par le coût de l'essence et les variations de la météo. Et évidemment, tout cela a un impact sur la sécurité alimentaire. Dans les ménages où il y a plusieurs personnes, le coût de l'alimentation peut monter très vite, puis ça peut forcer les familles à faire des choix difficiles.
Oui. On termine avec une bonne nouvelle pour l'ancienne église Sainte-Marie.
Oui, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, mais c'est juste pour vous dire que c'est confirmé. L'association Sainte-Marie Héritage et Développement a remporté la première place au concours Le Beau Sauvetage. Donc, ça leur donne accès. Mais ils ont remporté avec presque 35 000 votes. Là, j'ai pas pu voir, mais les dernières fois que j'avais regardé, il y avait plus que le double du nombre de votes et la deuxième place. Ça leur donne accès à 50 000 $ qu'ils vont pouvoir utiliser pour commencer à rénover l'ancienne église de Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, qui, je vous le rappelle, est un des plus hauts bâtiments en bois de l'Amérique du Nord.
Merci beaucoup, Julien, pour toutes ces nouvelles. On se retrouve la semaine prochaine.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
Public abordable, un concept qui gagne du terrain. C'est un choix de texte fait par Isabelle Falardeau.
Oui, bonjour. Donc, c'est ce texte de Philippe de Montigny qui est paru le 7 avril sur le site de Radio-Canada Info.
L'idée, donc, d'impliquer des supermarchés qui seraient gérés par le gouvernement est revenue dans le débat public, notamment à Toronto et à New York. Bien sûr, on peut y voir une solution pour réduire notre facture alimentaire, mais certains doutent de sa viabilité. Et j'ai choisi en fait cet article-là parce que justement, on fait vraiment le tour. J'ai vu plusieurs articles qui parlaient du positif, puis d'autres qui parlaient du négatif. Ici, on faisait le point, donc j'aimais beaucoup l'idée. On parle d'abord de Toronto, qui songe à ouvrir 4 supermarchés qui seraient gérés par les municipalités dans des quartiers à plus faible revenu. Donc, les clients pourraient profiter d'un plus bas prix que dans les grandes chaînes. Et ça a déjà reçu le feu vert du conseil municipal à la fin de mars, donc c'est en cours là, de développement. En fait, peut-être que vous avez vu passer ça quand le nouveau maire Zoran Mamdani a été élu à New York. Il avait proposé, donc ça c'était dans sa campagne électorale, de créer des épiceries publiques. Lui, il parle dans des déserts alimentaires, donc des endroits qui ne sont pas bien desservis. Le concept à New York, ça serait que les magasins n'auraient pas à payer de taxes municipales, donc les consommateurs profiteraient de ces économies-là. Ensuite, plus proche de nous, à l'échelle fédérale, il y a le nouveau chef du NPD, Avi Lewis, qui a proposé un réseau d'épicerie-entrepôt qui serait subventionné par l'État et qui offrirait des produits locaux. Donc, on combine deux choses, encourager les produits locaux et faire des économies, ou en tout cas faire des économies aux consommateurs. Il y a des chercheurs qui ont analysé la proposition d'ouvrir 50 succursales et 6 centres de distribution. Ça nécessiterait, d'après eux, un investissement initial de 350 millions. Pardon, de dollars. Et on parle de coûts d'exploitation qui s'élèveraient à environ 290 millions annuellement. Ça serait le gouvernement qui paierait le loyer, les gens qui travailleraient à l'épicerie, l'électricité, etc. Ça pourrait réduire vraiment le coût des épiceries. On parle de 30 à 45 selon où les gens vivent. Parce que évidemment, dans les grandes villes, c'est peut-être plus facile d'avoir des denrées moins chères. Mm-hmm. On parle de 30 et 45 % dans les communautés nordiques où le coût des aliments, on le sait, c'est vraiment de 2 à 3 fois plus élevé.
Bien oui, Julien vient d'en parler, là. C'est exorbitant.
Exactement. Donc, on parle d'économies qui pourraient aller de 2 500 à 10 000 $ par année.
Non, ça finit par paraître.
Oui, c'est ça. Donc, évidemment, dépendant de la grosseur de la famille et de où cette famille habite. Il n'y a pas d'estimation de coûts des économies là, qui seraient faites pour le projet pilote à Toronto. On est toujours au stade embryonnaire, mais lors des débats, les élus ont évoqué la possibilité de soutenir ces nouveaux supermarchés en les exemptant d'impôts fonciers, un peu similaire à ce qui se fait à New York ou ce qui se ferait à New York. On dit que les fonctionnaires donc de Toronto préparent un plan d'action qu'ils vont remettre au conseil municipal d'ici la fin juin 2027. Donc, je pourrais peut-être vous en donner des nouvelles là, selon le développement. Donc, ça, c'est pour le positif, ou en tout cas pour les propositions. Maintenant, ce que les experts en disent. Donc, Maurice Doyon, qui est professeur au département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation à l'Université Laval, à Québec, lui souligne que les marges de profit sont déjà très faibles dans le secteur. Donc, selon les plus récentes données de Statistique Canada, la marge bénéficiaire moyenne est d'environ 3 % dans les supermarchés et les épiceries du pays. Et il y a quand même des systèmes complexes qui existent entre les distributeurs et leurs fournisseurs, des logiciels qui leur permettent de savoir si les quantités nécessaires, quelles sont les quantités nécessaires, etc. Donc, lui, il voit mal comment le public pourrait implanter ce genre de logistique qui est quand même coûteuse.
Bon.
Il ajoute aussi que les économies d'échelle dont profitent les grandes chaînes, là, comme Loblaws, Sobeys et Metro, ça serait difficile à reproduire avec un nombre limité d'épiceries publiques. Donc là, ça dépendrait vraiment de la quantité. Selon lui, un soutien direct aux ménages à faible revenu pourrait s'avérer plus efficace. En fait, il y a Sylvain Charlebois, qui est directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université Dalhousie. J'ai déjà parlé de lui plusieurs fois, là, qu'il y a une chronique.
Oui, mais c'est terminé. Le contrat était.
Je vous en parlerai peut-être moins. Mais oui, il va peut-être trouver un autre contrat.
Malheureusement.
Donc, lui, il abonde dans le même sens. C'est compliqué et c'est pour ça que ça va prendre beaucoup d'argent des contribuables pour monter un système. Maintenant, ce qu'il dit, c'est si la Ville de Toronto veut faire ça, il y a du travail à faire. Et au niveau national, c'est la même chose. Il faut développer des réseaux, optimiser la distribution. Par contre, il croit que le concept serait bien adapté pour le Nord canadien où, donc on l'a dit, le prix des aliments est particulièrement élevé. Donc, peut-être des initiatives là, à des endroits vraiment ciblés. Ça pourrait être plus intéressant selon lui. Au-delà des épiceries publiques, par contre, il y a d'autres modèles qui suscitent de l'intérêt, comme les coopératives, les épiceries solidaires ou encore les épiceries à but non lucratif. Il y a plusieurs projets qui sont déjà en développement. Par exemple, il y a une initiative qui est portée par l'Association pour la santé publique du Québec qui explore la création d'une filière alimentaire sans but lucratif dans la région de Montréal. Son directeur général, Thomas Bastien, dit « Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de réfléchir à des espaces de stockage et à des espaces de vente commun parce qu'ils se rendent compte que le besoin est extraordinaire. On n'a jamais vu ça. C'est vraiment très, très difficile en ce moment. » Et donc, lui, il souhaite voir d'ici la rentrée en septembre la création d'un centre de distribution qui pourrait alimenter différents marchés solidaires et organisations du Grand Montréal. Donc, peut-être, il y a plein d'initiatives locales, peut-être les rassembler puis les coordonner. Ensuite, il pourrait multiplier les points de vente dans la métropole et éventuellement, on pourrait étendre ce modèle-là ailleurs dans la province. Il dit, on a un panier d'épicerie qui cesse d'augmenter en matière de prix et à côté de ça, on a de plus en plus de personnes qui vont dans les banques alimentaires parce qu'elles n'ont plus la capacité de se payer les produits. Et donc, ça, c'est la conclusion de l'article. Moi, je suis allée voir un peu parce que j'en connais plusieurs épiceries solidaires dans mon quartier. Donc, soit des épiceries où on va vous charger un prix selon votre revenu, ou encore, dans le cas du pirate vert, c'est des denrées qui sont récupérées pour éviter le gaspillage alimentaire. Puis là, c'est vraiment, vraiment moins cher. Souvent, c'est des articles qui ont atteint la date de pas de péremption, mais de meilleur avant ou tout simplement qui était pour être jeté par des entreprises. Bref, si vous faites une recherche, j'en ai trouvé quand même, là, il y a l'organisme l'épicerie communautaire, le garde-manger dans la région de c'est le voyons, la MRC de Maria Chapdelaine, donc je pense que ça, c'est au Saguenay. Il y a à Rimouski, il y a un réseau de réfrigérateurs communautaires. Là, c'est on laisse la nourriture qui est pas pour qu'elle soit pas gaspillée, puis les gens peuvent la récupérer. Il y a vraiment dans la région de Montréal, il y en a beaucoup, mais si vous cherchez pour votre région spécifiquement, là, je suis sûre que vous allez trouver facilement. J'ai découvert quand même quelque chose de vraiment intéressant, le multimarché épicerie solidaire dans le Côte-des-Neiges. Donc là, c'est vous payez 7 $ et puis vous prenez 25 items au choix. C'est plus facile que l'aide alimentaire directement parce qu'on peut vraiment choisir selon nos besoins.
Donc, il y a des solutions.
Il y a vraiment des solutions. Ouais. C'est vrai que ça serait peut-être intéressant de coordonner tout ça pour que ça ne soit pas seulement localisé et qu'on puisse s'entraider justement entre différentes organisations.
Alors, Isabelle, vous parliez tantôt de Sylvain Charlebois et je cherchais un petit peu mes mots parce que c'est pas vraiment un contrat, là. C'est au début avril, je peux lire là, sous la plume de Guillaume Picard, Sylvain Charlebois, que les Québécois connaissaient bien en ces temps d'inflation alimentaire, a été remercié par la presse pour qui il écrivait gratuitement une chronique depuis un quart de siècle. Dans un message partagé sur les réseaux sociaux, M. Charlebois, qui est notamment professeur invité à l'Université McGill à Montréal, a écrit « Ma chronique régulière à la presse a été suspendu indéfiniment cette semaine. Après 25 ans et plus de 1000 chroniques, cette décision ne vient pas de moi. » Et selon lui, le chercheur en distribution et en politique agroalimentaire, cette suspension est liée à des commentaires publics récents qu'il a fait relativement au financement des médias par le gouvernement fédéral via des crédits d'impôt. Alors, je voulais quand même donner un peu plus d'informations, l'information juste, finalement.
Merci beaucoup.
C'est la fin. Le tout dernier matin, le tout dernier jasmin, ne me lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau. Thank you.
dernier jour du discours de Juliette Armanet.
Quelques brèves avec Serge Bradet. Serge, vous nous parlez de Mafalda?
Mathilda.
Ah, Mathilda.
L'effet Mathilda.
Qui est Mathilda?
En quoi l'effet Mathilda a-t-il une influence sur une frise de la Tour Eiffel? Eh bien, il y a près de 140 ans, Gustave Eiffel avait décidé d'orner le premier étage de sa célèbre tour d'une frise comportant les noms des plus grands savants qui ont honoré la France depuis 1789. C'était une autre époque et aucune femme ne figure parmi ses 72 patronymes. Bonne nouvelle, toutefois, en 2027, donc l'année prochaine, ces scientifiques du 19e siècle devraient être rejoints par 72 consoeurs, ni plus ni moins, il y en a quand même beaucoup. Cet hommage remédierait à l'effet Mathilda, c'est-à-dire la minimisation systématique de l'apport des femmes à la recherche scientifique, a indiqué la commission formée pour mettre à jour la liste des noms.
Ah, oui. Mathilda, c'est pas le nom d'une personne.
Non, je ne penserais pas. D'après ce qu'ils disent, là, c'est une minimisation de Mathilda. C'est ça. Je ne sais pas d'où ça vient.
On met un homme là-dessus.
Oui.
Ou une femme, oui. Ou une Mathilda. Merci. Alors, à venir, une chronique avec Serge Bradet. Restez là.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Bon, on a mis un homme là-dessus, puis il a trouvé, Serge, l'effet Mathilda.
Oui. L'effet Mathilda, ça désigne le déni ou la minimisation systématique de la contribution des femmes scientifiques, comme on a dit, comme le petit article disait. Et c'est théorisé par l'historienne Margaret Rossier en 1993. Il rend hommage à la militante Mathilda Jocelyn Gage, qui avait dénoncé ce phénomène dès le 19e siècle.
Bon, on lui dit merci. Bon. Merci, ouais. Mathilda. Merci Madame Serge. Mathilda. On y va avec votre sujet du jour. C'est pas Mathilda, mais c'est Edmond Archambault.
Oui. Le vénérable établissement qui trônait majestueusement sur la partie est de la rue Sainte-Catherine depuis 93 ans, il faut compter 127 ans si on compte ses adresses précédentes. Rejoignait le panthéon des institutions qui ont laissé une empreinte indélébile dans notre mémoire. Il n'y en a plus de Chris. Il n'y a plus Christmas.
Pardon?
Oui, il n'y en a plus de Chris. Il n'y a plus Christmas. Qu'ils se l'arrachent, leur Santa Claus, de chez Simpson puis de chez Eaton. Moi, je me contente de Dupuis Frères. Moi, je me contente d'Homer de Serre. Chantait Robert Charlebois.
Ah, c'est ça, je me disais, ça ressemble à une chanson, oui. Des paroles de chanson.
Oui, en 1969, il chantait ça.
Ah, dans quelle chanson?
Oui. Il aurait pu aussi ajouter Archambault à son énumération, parce qu'il fut lui aussi, comme Dupuis Frère, comme Homer de Serre, un témoignage de l'appropriation francophone d'une vie commerciale dominée jusque-là par les Montrealers. Je pense que le fait d'ériger cet édifice Art déco de 7 étages sur cette partie de la rue Sainte-Catherine en 1930 est une réponse canadienne-française à la présence des grands fabricants de pianos et des grands magasins de musique anglophones sur la partie ouest de la rue, explique Francis Lapointe, historien spécialisé dans le commerce musical et les instruments de musique. Des magasins comme celui d'Alexander Parker Willis sur Sainte-Catherine-Ouest et Drummond. Une réponse nationaliste à la mainmise anglophone sur la vie musicale. On pose la question, pourquoi pas? L'hypothèse est séduisante. Elle pourrait même expliquer l'attachement des francophones au magasin Archambault. Il faut toutefois être prudent sur cet aspect, mais il est indéniable qu'ils ont presque développé un sentiment d'appartenance envers lui. Sans doute parce qu'il leur permettait de participer à la vie musicale et culturelle d'ici, majoritairement anglophone depuis 1860. Pourtant, rien ne laissait présager que le comptoir de vente de partitions musicales et de petits instruments qu'Edmond Archambault louait dans le grand magasin de piano J.A.U. Urteau sur Sainte-Catherine-Est, près de la rue Saint-Hubert, allait un jour devenir ce symbole montréalais. Né à Saint-Paul-l'Ermite en 1870, dans le coin de Repentigny, je vais aller voir hier, Edmond Archambault débarque à Montréal à 16 ans pour étudier le piano et l'orgue tout en enseignant la musique. Une période où le centre-ville et ses commerçants quittent le Vieux-Montréal pour la rue Sainte-Catherine. De sa demeure de la rue Berry, Archambault assiste à la transformation de sa ville d'adoption. La fin du 19e siècle, début 20e siècle, est une période très stimulante, explique l'historien. La ville est en plein boom économique. Les conditions de vie s'améliorent et les gens ont un peu plus d'argent.
On est en quelle année, là?
Fin 19e, début 20e, au tournant. Un petit surplus qu'ils peuvent investir dans des loisirs comme la musique. Comme la radio n'existe pas et que le disque n'est encore qu'à ses balbutiements, la seule façon d'en entendre, c'est d'en jouer. Toute la famille se réunissait autour du piano, puis c'est beau, des belles soirées. Il y a donc de belles possibilités pour les professeurs de musique et particulièrement pour ceux de piano, l'instrument de loin le plus populaire.
Il y avait un piano à peu près dans chaque maison.
C'est le centre du foyer. Un véritable home builder, pour reprendre les mots d'Alexander Parker Willis, qui favorise l'épanouissement familial. Ça tombe bien, le jeune Edmond donne justement des cours de piano. Mais Archambault n'est pas le seul à l'enseigner, ils sont même plusieurs à le faire. La concurrence est très forte. Probablement, mais c'est une supposition que la vente de partitions lui a semblé une avenue plus intéressante pour mieux gagner sa vie que les leçons de piano. Donc il peut faire plus de sous en vendant les partitions. En 1896, il installe son comptoir de vente à l'arrière du magasin J.A. Urteau. Une pratique courante à l'époque puisque les commerçants d'instruments de musique laissaient généralement la vente des partitions et de petits instruments à des indépendants qui leur louaient des espaces. La légende veut qu'il soit parti à New York avec 130 $ pour acheter un premier lot de partitions. 130 $ en 1896, c'est des sous, pas combien ça coûte aujourd'hui, mais sûrement des milliers de dollars. Un premier lot suivi d'un second, d'un troisième, etc. Et manifestement, Archambault a su choisir les bonnes partitions, puisque, même si ses débuts sont modestes, il réussit à s'imposer. Assez du moins pour continuer à s'associer à J.A. Urteau quand ce dernier déménage sur Sainte-Catherine-Est et Saint-Denis en 1897. Dès 1900, il augmente son espace dans le magasin. Il y ajoute des pianos et des orgues et installe sa propre enseigne sur la vitrine. 3 ou 4 ans plus tard, il loue 2 étages supplémentaires. En 1915, Urteau, dont les affaires sont florissantes, meurt. Alors Archambault rachète son fonds de commerce. Et en 1919, le nom Archambault prend toute la place et celui d'Urteau n'est plus qu'un souvenir. C'est un fin entrepreneur qui profitait des occasions quand elles se présentaient. Il savait lire les besoins des musiciens et de ses clients. Archambault était le miroir des goûts, des modes, des traditions et des désirs des Montréalais. Il a toujours su saisir les particularités du marché, souligne l'historien qui a travaillé 8 ans dans le magasin. C'est peut-être pourquoi il s'intéresse rapidement à la musique religieuse en achetant en 1917 la maison d'édition La Schola Cantorum, spécialisée en musique sacrée. Une initiative heureuse dans une société aussi religieuse que la nôtre et qui lui permet de distribuer ses partitions partout en Amérique du Nord. C'est un bon investissement, une bonne affaire. S'il connaît les goûts de sa clientèle, il réagit aussi rapidement aux innovations technologiques, notamment le disque et la radio. S'il profite du piano boom de la fin du 19e siècle, il fait de même avec celui du disque et de la radio. D'autant plus qu'avec le disque, le potentiel de consommateur explose, évidemment. Ce n'est pas tout le monde qui peut jouer du piano, mais c'est tout le monde qui peut écouter de la musique avec un gramophone qu'on remontait là, à la main. Là.
Avez-vous connu ça?
Oui, à la campagne, mes grands-parents avaient ça.
C'était un bel instrument.
Avec le gros cornet, là, puis les disques en vinyle qui pesaient.
Oui, un bel objet, je veux dire.
Oui, oui. Ouais. Si le succès d'Archambault tient beaucoup à son flair et à une période où tout était possible, il tient aussi à son personnel dédié, humain et qui conseillait avec justesse ses clients. Ça, c'est une marque de commerce d'Archambault. J'ai un ami musicien, puis il dit que c'était le bonheur d'aller là. T'sais. Toujours bien conseillé. Quand ils se présentaient chez Archambault, ils étaient accueillis par des spécialistes qui les accompagnaient dans leurs recherches. Ils revenaient donc les consulter régulièrement pour profiter de leurs connaissances et connaître leurs suggestions. On avait plus de chances de trouver un ami chez Archambault que chez Jean Coutu. Conclut en rigolant Francis Lapointe en citant le célèbre slogan du pharmacien.
Mais c'était vraiment des passionnés, des fins connaisseurs, chacun dans son genre musical.
Je reste encore un peu de temps?
Oui, un peu de temps.
OK. On dit, j'ai un petit encadré, M. Archambault, un homme généreux. Dès 1903, Edmond Archambault offre gracieusement au Conservatoire national de musique d'Alphonse Lavallée, Smith, des locaux sur 16 étages. Il en devient même le mécène, un rôle important à une époque où il n'existe pas encore de conservatoire public au Québec. Si la décision peut paraître surprenante, elle ne l'est pas tant que ça. Archambault avait très bien compris qu'en allant au conservatoire, les étudiants passeraient dans son magasin,
Mais oui,
y achèteraient leurs partitions et même leurs instruments.
C'est l'adresse incontournable.
Oui, oui, oui. Il y a même construit une salle de concert sur un des étages de son magasin, ce que plusieurs magasins de piano faisaient dans les années 1870-1880. Un geste qui, selon Francis Lapointe, est révélateur de sa méthode. Tout comme sa participation au conservatoire, sa commandite à une émission radiophonique de musique classique, la vente des pianos Archambault et qu'il fait fabriquer ici, ou encore les ententes d'exclusivité avec certains fabricants internationaux d'instruments. On voit chez lui le désir d'intégrer toutes sortes d'activités musicales au sein d'une même entité. C'est ça le modèle Archambault, explique-t-il avec enthousiasme. Une stratégie que son neveu, Rosaire Archambault, adoptera aussi, avec entre autres la création des disques Alouette et Silhouette et Select et d'un réseau de distribution, ma chère.
Est-ce que la marquise est toujours là? Parce qu'à un moment donné, on l'avait enlevée, ça avait créé un tollé.
Il me semble qu'elle est là.
Ah oui, j'espère.
Il me semble qu'elle est là, oui. Non, mais c'est beau, c'est vraiment le...
Moi aussi.
Un témoin de...
Oui, de l'époque.
De l'époque, de nos magasins importants,
oui.
Incontournables.
Oui,
merci,
oui.
On salue Edmond Archambault, hein, un fin limier.
Mm-hmm.
Merci beaucoup, Serge.
Ouais, plaisir.
Et merci beaucoup, Isabelle. À la semaine prochaine.
Merci, à la semaine prochaine.
Ah, oh, Serge, ben, vous partez
non,
en vacances?
Je ne serai pas là, oui.
C'est vrai.
Oui, 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 oui.
Pour quelques semaines.
Oui, jusqu'où je reviens le 23 mai.
Profitez de tout.
Oui, absolument.
Oubliez-nous.
Oui.
Mais revenez quand même.
OK. Bye.
got to hold up. Just gotta hold. Just gotta hold.
On en prendrait plus longtemps. C'était la chanson Pearl de Bobby Mazzini.
Oui, quelle voix, quel talent. Et parlant de talent, on joint William Bernacchès, que vous connaissez parce qu'il a fait quelques chroniques humoristiques ici même à Canal M. Bonjour William.
Salut.
Ça va bien?
Oui, vous?
Oui, oui, ça fait longtemps.
Ben oui.
Alors, on s'ennuie et puis on a décidé de vous inviter pour parler de le show Mal amoché. Vous deviez venir en studio, mais là, vous êtes un petit peu écartelé là, dans la ville.
Oui, exactement. Là, je cours un peu partout en ce moment là, avec l'organisation du spectacle. Là. Fait que je suis là au téléphone, malheureusement.
Non, mais ça nous fait plaisir. Vous vous prendrez une autre fois pour le studio, mais absolument. On est content que vous soyez là pour nous parler de ce show. C'est quoi un show Mal amoché?
Le show Mal amoché, c'est un projet que j'ai parti il y a quelques années. C'est un spectacle qui regroupe des artistes qui vivent des handicaps, des maladies, des troubles quelconques, puis ils viennent en parler sur scène. Donc, c'est vraiment un show, c'est qu'on peut parler de sujets que c'est pas nécessairement tous les humoristes qui voudraient parler sur scène. Donc, c'est un beau terrain de jeu. Puis ce jeudi, demain, on fait un spectacle au Jésus avec des artistes. Ça va être un show 100% avec des personnes en situation de handicap.
Très belle salle, le Jésus.
Absolument.
Comment vous avez eu cette idée-là?
Cette idée-là, ça m'est venu un peu à force de parler, de brainstormer, de penser. J'ai fait le podcast L'insolence du quotidien, puis on avait un des affaires qu'on avait faites, c'était comme l'accessibilité d'un salle. Puis j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de spectacle ou de show thématique à savoir en mettant en vedette des personnes en situation de handicap. Je me suis dit juste, pourquoi pas le faire? Fait qu'on l'avait fait au Minifest, je ne me trompe pas, en 2021, la première fois, puis ça a vraiment été un grand succès. Fait qu'on
en pleine pandémie.
Après la pandémie, okay. C'est peut-être 2022, mais c'est peut-être mes dates là, qui sont
bon,
pas...
dans ces eaux-là, en tout cas. Il y avait du monde au rendez-vous?
Oui, c'est ça. Ça a vraiment marché. Fait que on a répété l'expérience annuellement depuis.
OK, donc c'est la quatrième ou cinquième édition, là, genre?
On l'a fait un peu partout. Là, fait que ça doit être la septième édition à peu près. Ouais.
Ah, mais super. Et qui fait partie du spectacle? Est-ce que la distribution change de fois en fois?
La distribution change, mais on a quand même des réguliers. Là. Fait que pour demain, on a Charlie Rousseau, on a Angelo Giraldi, on a Marie-Christine Rissignolo, Michel Cordé puis Andréane Fortin.
Ah oui,
de la distribution de vestiaire. Là,
oui, tout à fait, des vedettes maintenant. Hein?
Oui, pas
qu'on,
mal.
Qu'on voit sur Ami Télé et sur Tout TV aussi.
J'ai mis sur le show pendant qu'ils sont encore disponibles.
Oui, profitez-en, vous faites bien. Et comment se sont passées les répétitions? Est-ce que vous répétez beaucoup?
Principalement, c'est pas un show, c'est qu'on va avoir des chorégraphies ou des numéros de groupe. C'est un peu plus comme une soirée d'humour traditionnelle ou un gala un peu plus traditionnel, c'est qu'on va faire des numéros. Fait que il y a beaucoup eu de rodage qui s'est fait, fait qu'on s'est suivi un peu partout dans l'île. Moi, j'ai ma soirée d'humour à Huntsic, fait que j'ai reçu tous les humoristes là un après l'autre pour qu'ils viennent roder parce que c'est pas tout. C'est pas tous les artistes qui font du stand-up de manière quotidienne. Mm-hmm. Fait qu'il y a beaucoup de répétitions là-dessus, mais ça va super bien. J'ai entendu les numéros, puis ils sont super drôles.
Oui. Et vous, votre rôle dans ce spectacle-là, là, vous êtes l'organisateur, fondateur, coordonnateur, metteur en scène. Est-ce que vous proposez un numéro aussi parce que vous êtes un humoriste?
Oui, ben c'est ça. J'organise le spectacle, je le produis aussi, puis je l'anime aussi. Fait que c'est moi qui est à la tête du spectacle. Donc c'est une job je fais un numéro évidemment, mais aussi une job d'expliquer c'est quoi le spectacle, s'assurer que tout le monde est sur la même page, puis de présenter les humoristes. Fait que moi je mets la table pour que les autres puissent performer à leur meilleur.
Et William, est-ce que l'humour c'est pour vous une façon de parler de sujets qui sont peut-être plus sensibles, plus délicats?
Ben absolument. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai pu gérer des situations dures qui me sont arrivées. Là. Fait que moi, ça a toujours été un véhicule vraiment important puis utile pour passer à travers des moments plus durs.
Mm-hmm. Parce qu'il faut rappeler que vous aussi, vous êtes un artiste en situation de handicap.
Oui, absolument. Je suis amputé à la jambe gauche. Fait que dû à un cancer. Là, fait que,
ouais.
Oui, c'est ça. Je vis aussi de l'handicap.
Et comment le public réagit à ce type d'humour-là où, justement, vous allez loin là, dans les sujets, dans les tabous, des sujets qui peuvent mettre mal à l'aise un public qui n'est pas trop habitué à rencontrer des personnes en situation de handicap aussi?
Ben, personnellement, moi, par exemple, je vis de l'humour, là, fait que moi, en faisant le tour du Québec, pour vrai, je sens pas que c'est un tabou, même que je sens que le public est très
réceptif,
à l'écoute,
ouais.
Puis réceptif, oui, exactement, à ce genre de sujet-là, puis c'est vraiment la bienvenue. Puis un peu le but du show Malamoché, c'est un peu ça aussi, là, de juste dire au monde, on n'est pas là pour avoir des « Ah, oh, on n'est pas là pour faire pitié », on est vraiment là pour faire rire avec ça, fait que aussitôt que c'est établi, il y a un 180 qui fait, puis le public est full dans l'acceptation, là, tu sais, fait que c'est jamais des jokes méchantes non plus qu'on fait, là, c'est vraiment là, des jokes sur nos handicaps, mais pour avoir du fun, puis se retrouver ensemble, là. Fait que j'ai jamais vraiment senti, pour ma part, que c'est super tabou, là, quand je fais des jokes sur mon handicap.
Oui, et j'imagine que si vous avez décidé de rire de votre handicap, ou en tout cas de dire ce que vous avez envie de dire, mais nous, il faut être réceptif et prêt à accueillir votre parole, d'une certaine façon.
Ben oui, c'est sûr que c'est faut du monde qui sont prêts à venir rire de ça aussi, là.
Ouais.
Puis encore une fois, c'est toujours dans le bon goût, puis on est là pour faire rire, là. Fait que c'est bienvenu à tout. C'est vraiment un choix accessible.
William, avez-vous, observé qui est dans la salle? Est-ce que ce sont des jeunes, des plus vieux, la famille? Qui vient voir le show amoché, mal amoché?
c'est vraiment de tout, pour vrai. Je pose souvent la question à chaque édition. Je pose la question, est-ce qu'on a des gens en situation de handicap? Est-ce qu'on a des mal amochés, que je les appelle? Est-ce qu'on a des accompagnateurs? Est-ce qu'on a du monde qui sont juste curieux? Puis je dirais que dans les trois catégories, c'est souvent un tiers de chaque.
Ah,
donc,
oui.
C'est un beau mélange de plein de gens qui sont curieux ou qui sont intéressés ou qui sont interpellés par le sujet puis par le spectacle. Fait qu'on a vraiment toujours un beau public quand même bien mélangé.
Alors, William, est-ce que vous avez d'autres projets en tête pour l'avenir? Qu'est-ce qui se passe de bon, là, à part ce show-là qui sera présenté demain soir au Jésus?
À part ce show-là, on fait une autre édition du show Malamoché au Minifest le 12 juin. L'équipe, les humoristes vont un peu changer pour cette édition-là. Sinon, j'ai mon nouveau balado, les grandes douleurs, sont disponibles sur mes médias sociaux, sur Spotify puis sur Patreon. Mm-hmm. Puis sinon, ben je roule un peu partout au Québec.
Bon, alors vous êtes pas mal occupé là.
Quand même.
Le Minifest, vous dites que c'est en juin, ça va se passer à Montréal aussi?
Oui, le 12 juin à la Maison de la Culture, Maisonneuve, on a fait, c'est une autre édition du show Malamoché avec le Minifest.
Bon, on prend ça en note, mais si on est pressé d'aller vous découvrir, là, c'est demain que ça se passe au Jésus.
C'est
de bonne heure, à 19h, les portes ouvrent à 18h, le show Malamoché. On en parlait avec le fondateur, producteur, puis animateur de la soirée, William Bernacchès. Merci beaucoup, William, pour cette entrevue, puis on
plaisir.
Vous souhaite une salle pleine.
Ben oui, merci beaucoup.
À la prochaine.
Salut.
Je te regarde et je fonds, mais j'ai oublié ton nom. Retire-moi. Tu parles et je souris, j'ai la drôle d'impression. On se connaît déjà. Et si c'est pareil pour toi, aime-moi, aime-moi. Je fais mon indifférent et je survis à la tente. Des boules dans ma bouche et à ma langue qui fourche plus un son. Et si c'est pareil pour toi, aime-moi, aime-moi. Ah, ah, ah. sur toi, mais je sens que tu le vois, ce qu'il y a entre toi et moi. T'es si différent, mais t'es le seul que je comprends, et t'es le seul que je vois. Je te regarde et je fonds, mais j'ai oublié ton nom. J'ai la drôle d'impression qu'on se connaît déjà. Et si c'est pareil pour toi, aime-moi, aime-moi, aime-moi. Là, tu n'as plus le choix. Aime-moi.
Moi, une chanson d'Ariane Brunet.
Annonce surprise à Québec, écrit Tommy Chouinard dans la presse plus. La première ministre Christine Fréchette va baisser les impôts des petites entreprises de 630 millions de dollars sur 5 ans. La mesure n'était pas inscrite dans le budget déposé en mars et ne figurait pas parmi les promesses faites par Mme Fréchette lors de la course à la direction de la CAQ, la Coalition Avenir Québec. Cet allègement fiscal bénéficiera à 75 000 petites entreprises qui économiseront chacune jusqu'à 5 000 $ par année. Christine Fréchette en fera l'annonce aujourd'hui, en compagnie du ministre des Finances Éric Girard et du ministre délégué au PME Daniel Bernard. Ce bol d'oxygène est réservé à 75 000 PME qui sont admissibles à la déduction pour petites entreprises et qui ont donc des actifs moins importants. Concrètement, leur taux d'imposition passera de 3,2 à 2,2 % sur la première tranche de 500 000 $ de revenus. Une belle demi-heure à venir avec la chronique cinéma de Louise Véronique Sicotte qui nous parle notamment de Rapace et de Mon fils ne revient que 7 jours. Et nous aurons aussi les détails les plus frais en ville du défi sportif Altergo en compagnie de Dominique Tremblay. Restez avec nous.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
C'est le défi sportif Altergo qui bat son plein. Dominique Tremblay est là-bas à la compétition Boccia. On le joint. Bonjour Dominique.
Bonjour Hélène, comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va bien, merci. On entend votre voix un peu plus basse que d'habitude parce que vous ne voulez pas déranger personne. Là.
Oui, c'est ça, mais je suis encore sur le bord du terrain, un terrain de Boccia pour la compétition de la Coupe du Monde. On est présentement toujours dans les tournois à la ronde, les demi-finales et finales en individuel vont avoir lieu jeudi et vendredi. Et juste en avant de moi, il y a un match entre John Leung de Hong Kong, qui est le premier joueur mondial dans la catégorie BC1 masculin, et rencontre un athlète du Japon. Et on est en troisième manche. Et l'athlète de Hong Kong mène présentement 4-0, mais il est encore très serré. Le joueur de Hong Kong a lancé toutes ses balles et le Japonais en compte présentement 2 points et voudrait bien en rajouter un petit peu plus pour se rapprocher dans le pointage.
Bon, alors vous continuez d'observer la compétition, mais vous allez quand même nous parler du défi sportif qui est le plus grand événement multisport annuel au Canada. Il y a plusieurs autres personnes au Canada qui pourraient bénéficier d'un événement pareil.
Oui, c'est vrai, parce que bon, c'est un événement qui est unique, surtout au niveau scolaire, là, comme vous avez pu voir vous-même lundi matin. Parce que bon, ailleurs en Ontario, par exemple en Colombie-Britannique, il y a des jeux provinciaux pour les personnes handicapées, un peu comme les Jeux du Québec au Québec. Mais c'est surtout au niveau scolaire là, que ça fait défaut. Et la première événement va avoir lieu en Colombie-Britannique pour la première fois. Là, ça fait quelques années qu'ils viennent faire les gens de la Colombie-Britannique viennent faire un tour au défi sportif pour prendre des notes. Et la première compétition va avoir lieu dans 2 semaines à l'aréna de patinage de vitesse de Richmond, en banlieue de Vancouver. L'intérieur de l'anneau de glace a été transformé en différents terrains de sport, comme du basketball ou ainsi de suite. Et puis, il va y avoir toute une compétition là, pendant une fin de semaine complète. Donc, c'est bien de voir ça pousser un peu partout. Et le défi sportif travaille fort pour qu'il y en ait d'autres qui poussent un peu partout dans d'autres provinces, parce que c'est le premier pas vers pratiquer des sports paralympiques. Et plusieurs athlètes qui ont représenté le Québec sont passés par par le défi sportif avant de représenter le Canada aux Jeux paralympiques, soit d'été et d'hiver. Mmh. Et d'hiver, pardon.
Et en lien là, avec cette ouverture sur les autres endroits au Canada, il y a des policiers de la Ville de Montréal qui sont partis pour un périple pan-canadien.
Oui, c'est ça. Je voulais parler que dans deux semaines, la compétition au Richmond Oval va avoir lieu. Et les policiers de le tour cycliste des policiers et policières du SPVM sont partis du centre ouvrière hier matin. Et ils vont se diriger vers la Colombie-Britannique, Vancouver. Ils vont arriver juste à temps pour la cérémonie d'ouverture de cette compétition. Ils veulent aussi ramasser de l'argent pour le défi sportif. C'est la 13e édition que le tour cyclisme des policiers fait donne de l'argent, là, des fonds pour le défi sportif. Et une partie des fonds va aussi être remis à cette compétition là, en Colombie-Britannique. On leur souhaite un bon périple. Et il y avait sur place le chef du service policier de la Ville de Montréal, M. Fadi Daguerre.
Daguerre.
Et on va entendre une clip qu'on a pu obtenir avant le départ de ses collègues de policiers.
Un grand merci. Un grand merci de nous recevoir, mais je prends la parole parce que je suis chef de police, mais ceux qui devraient prendre la parole, c'est tous mes collègues actifs et vétérans du SPVM. Je suis très fier d'eux autres. Ça fait 13 ans qu'ils s'impliquent avec Altergo. C'est pas fini, on va continuer des années et des années ensemble. Toute la gang, un grand merci pour l'équipe du SPVM. Madame Rouleau, merci d'être là. Merci de nous représenter aussi. Alors voilà, très content d'être avec vous, puis on va rouler pour vous.
Bon, alors bon voyage.
C'est ça, j'espère qu'ils vont avoir de la belle température.
Oui. Hier, Dominique, le gouvernement canadien a annoncé une bonne nouvelle. On en parle aujourd'hui dans l'actualité.
Oui, c'est ça. On sort un petit peu du défi sportif, mais le gouvernement canadien a annoncé un investissement de 755 millions sur 5 ans pour le monde le système sportif canadien. Ça comprend 118 millions pour le financement permanent pour les organismes nationaux des sports, comme par exemple le Boccia Canada ou d'autres organismes de ce genre. On avait parlé à la suite des Jeux olympiques et paralympiques que le système canadien, le financement faisait défaut et que ça causait énormément de problèmes, un peu dans les résultats, mais aussi pour s'assurer que les gens soient actifs. Et donc, cet argent est vraiment bienvenu là, dans tout le monde sportif canadien. Le Comité paralympique canadien et le Comité olympique canadien ont émis un communiqué de presse à la suite de l'annonce et sont très contents de ce financement qui va aider, donner un peu d'air là, au fédéral national pour qu'on puisse donner accès à plus de gens à faire du sport de haut niveau aussi, et peut-être gagner plus de médailles aux prochains Jeux olympiques et paralympiques.
Bon, bien, c'est super, ça. Ça donne un peu d'oxygène et d'espoir et d'énergie aussi.
C'est en plein ça. C'est une très bonne nouvelle.
Alors, Dominique, on vous laisse à votre match de boccia. C'est toujours 4-0?
Non, mais en fait, le Japonais essayait de rajouter des points. C'était lui qui était le plus proche, mais a poussé une balle du athlète de Hong Kong. Et c'est en fin de compte l'athlète de Hong Kong qui a compté un point. Et c'est maintenant 5-0 après trois manches. La quatrième manche vient juste de débuter. Et la compétition continue jusqu'à 7 heures ce soir et on en reparlera un petit peu plus demain.
Oui, certainement, c'est un rendez-vous. Merci Dominique, bonne journée.
Merci, bonne journée, au revoir.
Un grand renouveau souffle. souffle sur le pays très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
De nouveau, une chanson de Feu Chatterton.
C'est l'heure de la chronique cinéma avec Louise-Véronique Sicotte. Bonjour Louise-Véronique.
Bonjour Hélène.
Vous avez vu 3 films oui. pour nous et on commence avec Rapace. On va écouter un extrait de la bande-annonce.
Au secours, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Ils arrivent, s'il vous plaît.
Oh! Madame, vous m'entendez?
Une gamine retrouvée dans un champ.
Passionnel?
Je crois pas, ils étaient plusieurs.
C'est quoi votre journal?
Détective.
C'est pour faire chier ton père que t'es venu faire ton stage au journal?
Je pensais que ça nous rapprocherait.
J'ai besoin que vous me disiez ce que vous savez, vous.
Tout ce que je sais, c'est qu'elle, elle était défigurée.
On l'a aspergée d'acide.
On l'entend hurler.
J'ai déjà peur. Qui a fait ce film-là?
C'est le réalisateur Peter Dornzis.
Je connais pas.
C'est son 2e long-métrage.
Ah oui?
Oui. Et, bon, un film français, un thriller, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Donc, juste après la bande-annonce, on peut bien voir qu'il y a du suspense et des faits divers, en fait. Parce que le réalisateur s'intéresse beaucoup depuis longtemps, à la violence faite aux femmes. Et il a voulu explorer aussi les journalistes qui font du fait divers.
Le traitement médiatique
et du magazine, en particulier le magazine Détective, qui existe pour vrai.
Ah oui? Dépendant de notre Allopolis?
C'est ce que j'allais dire, d'une certaine façon. Et en fait, il y a un certain mépris par rapport à cette presse de faits divers.
Ouais,
et il voulait un peu réhabiliter le travail de ces journalistes. Alors, on va suivre le père et fille, donc Samuel, interprété par Samy Bouajila, et sa fille Ava, qui est stagiaire, comme on l'a compris dans la bande-annonce, dans ce journal, Mallory Wanek. Et les deux vont enquêter sur un meurtre d'une jeune fille. Et c'est adapté aussi, en fait, libre adaptation d'un fait divers qui s'est passé en 2002.
Pour vrai.
Moi, je trouve que, d'abord, la première partie du film est un peu confuse parce qu'on va suivre plusieurs enquêtes en même temps avec plusieurs journalistes. Et on peut voir aussi qu'ils ont certaines pratiques pas toujours légales, on pourrait dire. Bon. Alors, qui sont les rapaces dans le titre du film? Alors, c'est peut-être eux et elles, parce que des pratiques un peu illégales pour aller au bout des enquêtes.
Faire avancer l'enquête.
Faire avancer l'enquête et vendre le magazine. Mais c'est aussi les hommes qui attaquent les femmes. Donc, on parle de féminicide et on parle aussi de
l'essor...
Mais exactement, de l'essor du masculinisme. Alors, la deuxième partie est centrée sur le rapport entre père et fille, qui veulent aussi, d'une certaine façon, se réconcilier,
se rapprocher
beaucoup.
Mieux se comprendre.
Mieux se comprendre. Alors qu'ils vont vraiment aller au fond de cette enquête. Et le thriller prend son essor, prend son envol.
Et il y a moins de confusion à ce moment-là.
Il y a moins de confusion. Et le rythme est très rapide. Il y a une scène en particulier, la scène du restaurant. J'ai lu qu'il y avait au moins eu 4 jours de tournage seulement pour cette scène.
Parce
que le découpage est très, très méticuleux. Et là, tout se passe dans les regards. Et cette scène-là où le père et fille sont un peu traqués dans cet espace. La musique aussi, je pense que c'est important de le mentionner parce que c'est pas une musique qui va appuyer les émotions. Et ça, c'est intéressant dans ce type de film.
Oui, parce que ça devient racoleur quelquefois, quand la musique prend trop de place pour nous dire quoi penser, quoi ressentir.
Oui. Et on parle aussi de Jean-Pierre Daroussin. Je pense que plusieurs personnes le connaissent. Il a un petit rôle secondaire, mais il incarne un vieux routier du journalisme. Alors,
qu'on a vu, entre autres, je me souviens de son rôle dans Un air de famille. Hein?
Oui. Alors, c'est un film qui a...
Qui vaut le détour?
Qui vaut le détour.
J'avais pas l'air convaincue.
Mais si je compare avec La nuit du 12, dont j'avais parlé il y a quelques temps, ce film-là, c'était sur la perspective des policiers face à une enquête.
Dossier 137.
Non, c'est La nuit du 12.
OK, c'était le même réalisateur, me semble.
Je pourrais pas vous dire. La nuit du 12, c'est aussi c'est de Dominique Moll.
Ah oui. La nuit du 12 que vous aviez préféré.
Que j'avais préféré.
OK. Puis...
Mais c'est intéressant de voir l'aspect journalistique aussi, comment le traitement des journalistes, comment ils traitent une enquête. Et c'est présenté.
Dominique Moll a aussi fait Dossier 137, c'est son plus récent film, une enquête dont vous avez parlé.
Oui.
Et on avait parlé ensemble parce que je l'avais vu, j'ai adoré, l'actrice est formidable.
Oui, donc ces deux films-là étaient des films d'enquête, tout comme Rapace.
Oui. Et selon vous, les films de Dominique Moll sont plus réussis.
Plus réussis, en effet. Okay. Mais alors, c'est pas, on passe pas un mauvais moment non plus. Là.
Sur 10, comme dans la presse, vous donneriez combien?
5.
Oh, OK.
5.
C'est pas beaucoup.
C'est présenté au cinéma Beaubien.
D'accord. On passe maintenant, Louise Véronique, à un film québécois de Yann Giroux.
Oui.
Et qui s'intitule « Mon fils ne revient que 7 jours ».
A disparu. Il s'est peut-être perdu.
T'aurais-tu voir ça, maman?
Thank you.
Oui, on a besoin d'un contexte, là. Mon fils, c'est pas « Mon fils ne revient », c'est « Mon fils ne revint que 7 jours ». Ça change tout, là. Mais c'est un titre quand même intriguant.
Oui, en fait, c'est le titre du livre de David Clairson. Donc, c'est adapté de ce roman. Alors oui, c'est un film d'une certaine étrangeté, une extrême lenteur, comme on a pu même l'entendre dans la bande-annonce.
On le ressent, oui.
On le ressent. C'est une parenthèse entre une mère et son fils, une parenthèse d'une semaine qu'ils vont vivre ensemble. La mère interprétée, parce qu'en fait, il n'y a que deux personnages dans ce film, hein? Que deux, quand même. Alors, Marie-France Marcotte...
C'est rare, un film à deux personnages, là.
Marie-France Marcotte, qui interprète Suzanne, et Francis Lahaie, qui interprète Mathieu, son fils. Son fils qui...
Ça se passe où? Et on est en quelle année?
On pourrait être actuellement...
Aujourd'hui,
oui. Oui, en Mauricie, dans une forêt, parce qu'elle habite... Suzanne habite au cœur d'une forêt, très isolée. C'est une spécialiste des champignons. Et tout à coup, son fils va arriver. Son fils qui a parcouru les États-Unis en état d'errance. Donc, on sait qu'il y a... On peut très bien voir qu'il a un problème de santé mentale. Alors, il est un sans-abri qui a parcouru plusieurs États aux États-Unis. Et alors, il revient. Et c'est un peu le rapprochement entre les deux. C'est l'impuissance de la mère face à l'état de son fils. C'est son amour inconditionné également par rapport à lui. Et lui veut absolument retourner dans la tourbière. Une tourbière est un lieu de souvenir. Alors, le film est très contemplatif par rapport à la nature. On entre dans cette tourbière qui est à la fois mystérieuse et menaçante.
Il y a beaucoup de champignons aussi?
Il y a beaucoup de champignons. Il y a toute une gamme de champignons qu'on peut voir dans ce film.
Est-ce qu'on se sent en danger?
Non, on ne pourrait pas dire.
Non, parce qu'il y a des champignons qui peuvent être vénéneux.
Oui, en effet. Le film n'explique pas tout. Et c'est difficile de connecter pour moi avec les personnages parce que le jeu de Marie-France Marcotte est très introspectif, tandis que le jeu de Francis Lahaie est très physique parce que c'est aussi un danseur dans la vie. Et il y a très peu de dialogue, très, très peu.
Il ne se parle pas beaucoup.
Pas beaucoup, non, parce que le fils ne parle pas. Il est très, très introverti, il ne parle pas, il est dans sa bulle. Et les plans aussi, la réalisation fait que c'est beaucoup des plans larges et fixes. Alors, c'est un peu comme des photographies d'une certaine façon. Mais la beauté de cette tourbière quand même, parce qu'on va rarement dans une tourbière, dans un milieu humide, on entend les wawarons, on voit les insectes. Mais c'est un lieu qui est presque magique d'une certaine façon. Alors, c'est un film très contemplatif, très lent et... Bon, qui parle d'un rapprochement entre mère et fils, de la santé mentale, les problèmes de santé mentale.
Est-ce qu'on finit par s'ennuyer?
Bien, c'est un peu déroutant pour ceux qui ne sont pas habitués à des films aussi lents.
Lents.
Ouais. Moi, j'ai...
Mais quand c'est justifié?
Oui, mais moi, j'ai été émerveillée par la beauté de la direction photo.
Ah oui?
Oui. Mais... Concernant le jeu des deux, ben, vous savez, deux personnages seulement pendant toute la durée d'un film.
Mm-hmm.
Et,
est-ce qu'on croit à leur relation mère-fils?
Oui, on y croit, mais comment dire, moi, j'ai eu du mal à rentrer dans l'émotion de la mère. Parce que c'est souvent des plans éloignés aussi. Puis, elle n'est pas très expressive non plus. Donc, on ne peut pas trop comprendre... ce qui se passe dans leur tête.
Puis s'identifier à elle, puis avoir de la compassion.
Ouais.
Ça se passe pas.
Ouais.
Je me demandais ce qu'avait fait Yann Giroux avant « Mon fils ne revint que 7 jours » à tous ceux qui ne me lisent pas.
Oui. C'était avec Martin Dubreuil.
Oui, je me souviens de ce film-là en 2018, puis il y en a eu d'autres également.
Oui, oui, oui. Mais c'est pas évident d'adapter un livre qui est très, très descriptif à l'écran.
Oui. Ça marche à moitié ici, là.
Ben, direction photo extraordinaire, quand même. Mm-hmm.
Mais vous avez quelques bémols.
J'ai quelques bémols. Et c'est présenté à la Cinémathèque. Et le 2 mai, il y aura une projection suivie d'une discussion.
Ah oui, avec qui?
Je ne pourrais pas vous dire, mais...
Le réalisateur et peut-être les acteurs ou peut-être toute cette équipe.
Peut-être toute cette équipe est présentée également au Beaubien puis au cinéma public.
Bon, alors de la lenteur, on passe à l'action avec Herbie.
Je regarde dans un petit trou, là, puis je vois tous les chars de course. Wow! Oh my God! C'est dread ce jour-là que j'ai vu qu'est-ce que je voulais faire, tu sais. C'était inatteignable.
Ça coûtait une fortune de vous dire ça, là.
We've invested everything we have for this season.
Starting to look like a race car, baby.
Hell yeah.
Push it, push it.
Go.
I love you.
I love you, too.
New car, new engine, old friends. Yeah. Finally being where we wanted to be, but with a 20-year gap.
There's a few episodes that make me change, you know?
How much you have to fucking suffer? Tu veux-tu devenir un pilote de course ou tu veux finir ta vie en dedans?
She woke up all those dreams again inside of me.
Autre atmosphère.
Complètement. C'est Herbie. Il faut dire Herbie, non Herbie, parce que c'est un personnage anglophone.
Oui.
De Antoine Bergevin-Richer, que je ne connaissais pas, que je ne connais pas du tout.
C'est son premier long-métrage.
OK.
Oui.
Tout s'explique. Film qui prend l'affiche le 1er mai. Qu'est-ce que ça raconte? Là, on est dans des courses automobiles?
Oui, la course du circuit NASCAR. Et Herbie, c'est le personnage principal. Un être flamboyant, drôle, hypersensible, fantasque aussi. Beaucoup de, qu'on pourrait dire, de qualificatifs qu'on pourrait lui attribuer. Et c'est son rêve, ça a toujours été son rêve de participer comme pilote dans une course.
De NASCAR.
De NASCAR. Mais il a 53 ans.
Et il est tellement vieux.
Mais ça n'a pas été un enfant de cœur non plus dans sa vie. Alors, plusieurs
il
problèmes.
Il a passé.
Passé très turbulent, on pourrait dire, avec ses jours en prison, dépendance au...
ça fait un beau personnage.
Ça fait un très beau personnage. Il a beaucoup de vécu. Mais il s'est toujours intéressé à la course, ça a toujours été son rêve, il n'a jamais lâché. Il a été mécanicien pour des pilotes expérimentés et fortunés, parce que lui, il n'a pas de moyens. Alors, comment il fait pour devenir un pilote? Il s'entoure de ses amis, de ses potes, qui sont du même âge que lui. Alors, on rafissole une voiture et on suit Herbie dans les préparatifs d'une course à Toronto et ça va culminer avec le Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, c'est tout un personnage parce que à la fois, il a beaucoup de bagou, il témoigne et il témoigne avec aussi sa vulnérabilité et aussi son équipe. Donc, c'est aussi un film sur l'amitié masculine, les trahisons aussi de l'amitié, sur sa conjointe Anna, qui est une force de la nature, qui est son pilier, son socle.
Qui sont les acteurs?
Ben, c'est pas des acteurs, parce que c'est un documentaire.
Ah, c'est un documentaire?
Mais, oui!
OK, donc, ça m'a échappé.
C'est vrai de vrai.
Herbie existe pour vrai.
Il existe pour vrai.
Ah, d'accord.
Oui, mais c'est ça qui fait toute la force du film, parce que c'est presque un personnage de fiction, avec tout le passé qu'il a. Et c'est très beau de le voir, qu'il a cru à son rêve, et il s'est entouré de toute son équipe d'amis, et c'est malgré... le peu de moyens, on peut réaliser son rêve. Et c'est ça qu'il montre.
Tu penses que ça a été votre coup de cœur, hein, parmi les trois films?
Ça a été mon coup de cœur, parce que moi, je ne suis pas une fan de course, là, non?
Non, mais en même temps, c'est pas votre profil.
Non, mais en même temps, on entre dans les coulisses de ce type de course.
Le rythme est bon.
Le rythme est bon.
Vous êtes fait prendre par cette histoire.
Oui, parce que c'est un fin équilibre entre l'action des courses, les préparatifs et aussi les témoignages.
Donc, un premier film prometteur là, pour Antoine Bergevin-Richer, documentaire, le rappelle.
Oui. Je dirais qu'on entre dans cet univers-là avec... et on en ressort avec plaisir Et mon Dieu, qu'on est content pour ce fameux Herbie.
Oui, il ne faut pas tout dire.
Non.
Mais on croit deviner.
Oui, on croit deviner.
Qui va aller au bout de ses rêves.
Exactement.
Merci beaucoup, Louise Véronique. On se retrouve au mois de mai.
Oui.
Hein?
Oui.
Ça va vite. Hein?
Ça va vite.
Une fois par mois, elle vient nous parler cinéma et ça nous fait toujours plaisir.
Merci et à bientôt.
Ça a passé vite aujourd'hui. Hein, Mathieu? Merci à tous et à toutes. Passez une très belle journée. On va se retrouver demain.